respiri dal mio cuore.
Bonjour et bienvenue dans l'émission L'Arbre Bleu. Son. Les cloches sonnent la fête. Les cloches sonnent le glas. Les cloches sonnent le la. Faux. C'est bête. Il y a quelque chose qui cloche. Voyage. Cette Véronique, il n'y a qu'elle pour inventer une histoire pareille. Elle est folle. Mais pendant qu'il se parle tout seul, Denis a du mal à retenir un sourire. Il descend à toute vitesse les 4 étages qui le séparent du garage. Il y a des jours où l'ascenseur est vraiment trop lent. En abordant le dernier virage, il se dit presque tout haut. Elle est folle. Pourquoi n'a-t-elle pas été plus claire? Des mois à se voir tous les jours ou presque, à travailler ensemble souvent? Ah, mais pourquoi cette porte est-elle toujours fermée à double tour? Elle protège quoi? Les clés, sac à dos, poche de devant. Tendre, mais pourtant inaccessible, voilà ce qu'elle était. C'est possible, ça? Mais qu'est-ce qu'elle a, cette moto? Jamais elle ne rechigne à démarrer. Pas aujourd'hui, cocotte, non. Aujourd'hui, je pars maintenant, tout de suite. La retrouver, lui dire que j'ai lu sa nouvelle dans Le Temps. C'est rare, une nouvelle dans Le Temps. Quelquefois, au moment des vacances. De toute façon, je ne les lis jamais. Où habite-t-elle maintenant? Son adresse, ça pourrait servir. Voilà, elle m'avait juste laissé le nom d'un patelin un peu à l'écart de la route de Normandie, je crois. Choisir les bûches pour le feu, voler quelques branches à un fagot, porter le tout précieusement de la grange à la cheminée de la grande salle chaque soir en rentrant de la ville, c'est un rite dont Véronique se serait difficilement passée. Le contact du bois, l'odeur de la grange, et puis un peu plus tard, le premier craquement du feu quand on a disposé le journal, le petit bois et la première bûche, dans un équilibre efficace et chaque fois différent, représente un passage obligé pour lâcher tout ce qu'une journée de travail accumule de tension. Depuis qu'elle est seule, elle a d'ailleurs remarqué que son symptôme s'est accentué, marquant peut-être plus fort le besoin d'accompagner ses soirées. Vie et chaleur. Pas si simple la solitude, même quand on a fait vœu d'indépendance. Elle tend la main pour attraper le journal le plus proche. Non, quand même pas celui-là. Page 24, on peut y lire son nom en toutes lettres, Véronique Massé. Quelle folie d'avoir écrit et publié cette nouvelle. Pourquoi? Toujours des retrouvailles impossibles, bien sûr, des histoires terminées presque avant d'avoir commencé. Et puis, qui la lira? Est-elle seulement destinée à quelqu'un? Enfin, elle sourit intérieurement, en pensant qu'elle aurait dû en parler à sa psy. Ce soir, Véronique a envie d'un très grand feu, d'une soirée bien longue. Les jours allongent, il fait presque doux. Elle sort chercher encore 2 grosses bûches. Mais elle s'arrête à mi-chemin, étonnée. Elle entend venant du fond de l'allée un bruit de moto. Pas celle de Robert, le fils des voisins, il vient de partir au service. Elle n'a pas le temps d'approfondir sa recherche. En face d'elle, dans le dernier coude de l'allée, débouche effectivement une moto, une vraie. Elle n'a jamais aimé les Harley prétentieuses, encore moins les nouvelles motos carénées comme des clowns, couleur fluo et forme super phallique si possible. Non, une moto noire avec juste ce qu'il faut de chrome. Et celle-là, elle la connaît. Quelque chose en elle la reconnaît, même un peu avant, qui se met à battre au point de dérégler tous les honnêtes stéthoscopes. Denis. Au moment où il s'approche, après avoir retiré son casque et ses gants, il ouvre son blouson et elle aperçoit un journal plié. Son regard, impossible d'avoir oublié. Vert et brun mêlés, un petit air d'enfance accroché, le coup d'œil rapide qui prépare ou retient la parole, et la tendresse surtout. Celle qui la faisait craquer et tout recommencer chaque fois qu'elle s'était crue éloignée et libérée. Celle qui se transformait quelquefois en orage ou en couperet. Contre son épaule, juste une place pour cacher ses yeux à elle. vite le serrer dans ses bras, maintenant tellement fort, et le laisser chercher sa bouche. Rattraper, si c'est possible, tout le temps perdu, épuisé à ne pas se trouver. « Tu es folle !» est la seule phrase qu'il réussit à prononcer des siècles plus tard après l'avoir écartée juste un peu. « Je sais, » dit-elle, en l'entraînant vers la maison, puis interceptant son regard vers la moto. « Tu peux la laisser, ici il n'y a pas de problème. » Dans les maisons basses de ce type, on entre directement dans la pièce de séjour, qui est généralement vaste et parfois un peu sombre. Véronique avait disposé tout au fond, le plus loin possible de la cheminée, son piano à queue et le violoncelle dont elle commençait à peine à jouer. Denis ne voit que le piano, prend à peine le temps de retirer son blouson, descend légèrement le tabouret et s'installe. Déjà, Véronique ferme les yeux. Elle avait toujours su qu'elle ne devrait jamais l'écouter jouer du piano, comme dans les contes de fées, les enfants ne doivent pas franchir la limite du jardin magique. C'est déjà trop tard. Elle s'allonge sur le tapis. Chopin. Il joue Chopin comme jamais elle ne l'a entendu interpréter. Si, peut-être par cet ami polonais de son professeur de piano, cet homme sans visage à qui elle avait donné le droit d'être un gnome tellement il jouait beau. Des larmes coulaient doucement sur ses tempes avant de tomber sur le tapis. Elle a envie de se lever pour le voir jouer. Non, ne pas l'interrompre. Quand il la rejoint, quand elle sent son corps contre le sien, les larmes s'arrêtent de couler. Le lendemain, un grand soleil la surprend dans le lit à baldaquin, là-haut dans la chambre qui s'étire sous les combles, sur toute la longueur de la maison. Mais il n'a pas encore réveillé Denis. En descendant doucement préparer un café, elle se demande quand ils sont montés et se sent une petite faim. Réalisant qu'ils n'ont rien mangé, elle prépare un petit déjeuner à faire pâlir tous les habitants de Grande-Bretagne. Au moment où elle prend le plateau, elle sent les mains de Denis autour de sa taille. Elle ne l'a pas entendu descendre. Elle laisse peser sa tête en arrière sur l'épaule qui se penche. « Dis donc, dans ta nouvelle, tu ne lui prépares pas un festin pareil à ce François ? D'abord, je n'aime pas ce prénom. Pourquoi m'as-tu appelé comme ça ? Vous voilà bien prétentieux et sûr de vous, mon ami. Qui vous dit que ce François ne représente que vous ? Il me ressemble quand même beaucoup, non ? Tu sais, quand tu écris, tu construis tes personnages, tu leur cherches un prénom, comme si tu attendais un enfant. » Mais en réalité, c'est très différent, là, c'est toi qui choisis. Et ils sont faits de mille et un traits glanés chez tous ceux que tu as croisés sur ton chemin et qui t'ont plus ou moins marqué. Le prénom, par exemple, c'est un clin d'œil à une amie. Denis reste pensif quelques instants, puis semble poursuivre le jeu. On décide quoi, alors, pour la suite de l'histoire ? Normalement, je suis passionnée de voile, nous partons plusieurs mois dessus la mer jolie, sauf qu'on ne revient jamais du voyage. Plouf ! Je n'ai pas encore envie de mourir. Pas tout de suite, j'ai l'impression d'avoir encore des choses à vivre, une espèce d'urgence peut-être à cause de la quarantaine. On partirait quand même, mais pas en bateau, tu serais d'accord ? Tu pourrais abandonner tes pesantes responsabilités pour quelques jours avec moi ? Accordé. Quelle direction ? Le sud, Barcelone, Lisbonne, une ville chaude où les nuits sont blanches. Tu m'as fait passer presque 24 heures au fond de la campagne française à mon tour de t'emmener sur ma planète. Véronique téléphone au dispensaire, laisse un petit mot sur la table de l'entrée pour Georgette, la femme de ménage. « Je pars quelques jours, ne changez pas les draps, je le ferai moi-même à mon retour. » Plus tard, retrouver le creux de l'oreiller et l'odeur du lit froissé. Parce que cette nuit-là serait peut-être l'unique d'une histoire à peine commencée. Parce qu'elle ne savait pas s'il reviendrait et ne voulait surtout pas le retenir. Épilogue. À quelques kilomètres de la frontière espagnole, sur la route de Barcelone, le policier s'accroupit. Il cherche dans la poche du blouson un portefeuille, une indication, une adresse. Il faut bien prévenir quelqu'un. Mais il trouve seulement une espèce de machine à calculer. Tant pis, se dit-il, peut-être que le chef saura en tirer quelque chose. Il est tard, il en a assez de dépasser toujours ses heures de service. Si ce n'est pas malheureux quand même, pour une fois que ce n'est pas la faute du motard que l'accident est arrivé. Un crétin qui double en haut d'une côte, ça... Ça ne pardonne pas. À voir jusqu'où ils ont été projetés, ils ne s'en sortiront pas. Dans l'autre poche du blessé, un journal. Le policier le prend aussi, ne peut s'empêcher d'y jeter un œil et se dit « Dommage que ce soit écrit en français, je n'y connais rien. Tant pis. Peut-être que ça intéressera le professeur du petit. » C'était une nouvelle de Anna Magdalena. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du parti. Aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse, toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du parti. Aimer à perdre la raison.
Un fou vagabondait, cherchant la pierre philosophale, les cheveux emmêlés, hâlé, couvert de poussière, le corps réduit à une ombre, les lèvres aussi serrées que la porte close de son cœur et les yeux brillants comme la lampe du ver luisant qui cherche sa compagne. Devant lui grondait l'océan immense. Les vagues babillardes racontaient les trésors cachés dans leur sein et se moquaient de l'ignorant qui ne savait pas les comprendre. Il allait, lui, sans espoir et sans repos, poursuivant la recherche qui était devenue sa vie. Pareil à l'océan qui toujours se dresse vers le ciel pour atteindre l'inaccessible. Pareil aux étoiles qui tournent en cercle, aspirant à un but jamais atteint. Ainsi, sur la plage déserte, le fou aux boucles fauves de poussière errait cherchant la pierre philosophale. Un jour, un gamin du village s'approcha et lui dit « Comment as-tu trouvé cette chaîne d'or qui te ceint la taille ?» Le fou tressaillit. La chaîne, autrefois en fer, s'était changée en or. Il ne rêvait pas, mais comment cette transformation s'était-elle faite? Sauvagement, il se frappa le front. Où avait-il, sans le savoir, réalisé son rêve? Il avait pris l'habitude d'éprouver les pierres qu'il ramassait en les frappant contre sa chaîne et de les rejeter ensuite machinalement sans regarder si quelque changement s'était produit. C'était ainsi que le pauvre fou avait trouvé et perdu la pierre philosophale. Le soleil disparaissait, à l'occident le ciel était d'or. Anéanti, brisé de corps et d'esprit, semblable à un arbre déraciné, le fou se remit à chercher le trésor perdu. La chanson était de Jean Ferrat, vous l'avez reconnu sans doute, et le poème de Tagore.
Lacrime mirida fano, sospiri del mio cor, all'idol mio tiranno, spiega il mio dolore. Ma che chiova il pianto, che chiova sospira.
C'est la crudelle.